Je reviens d'un voyage de 8 jours que nous avons fait comme délégation parlementaire du 7 au 14 octobre en Colombie. L'objectif de ce voyage était celui d'examiner sur place, une année après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Colombie, d'examiner quels étaient en fait les premiers impacts de cet accord sur place. L'objectif premier qui avait été mis de ce voyage par le président de la Commission était surtout celui de rencontrer le ministre des Affaires du Commerce colombien, de rencontrer les entreprises colombiennes et d'entre les multinationales suisses, et puis peut-être l'ambassade et le Parlement, mais ça se limitait à cela. On a réussi à faire changer le programme et à nous permettre de rencontrer des acteurs tels les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats, également ensuite des représentants d'organisations de base à Popayán, dans la région du Cauca, et en plus toute une série de projets, et notamment aussi le CICR qui est présent à Montería, qui est une région où il y a une violence paramilitaire extrêmement, extrêmement forte. Il faut peut-être juste expliquer le contexte de l'accord de libre-échange en Suisse. Il faut dire peut-être des choses que vous avez déjà entendues hier et aujourd'hui, mais l'accord qui a été conclu entre la Suisse et la Colombie, le contexte, il est le blocage des négociations multilatérales du cycle de Doha, dit cycle développement pour le développement. Ce blocage a amené nombre de pays du Nord et la Suisse parmi ceux-ci à mettre en place un processus de négociation bilatérale d'accords de libre-échange. Processus naturellement qui place les pays du Nord dans une situation nettement plus favorable, puisqu'on divise finalement les États du Sud et on essaie de faire passer les intérêts du Nord de manière beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pas de front qui s'oppose aux intérêts, par exemple, des pays européens ou des pays industrialisés. Et cela a amené la Suisse à signer toute une série d'accords de libre-échange avec des pays africains et aussi avec des pays asiatiques. Mais ce qui est intéressant avec l'Amérique du Sud, c'est que les premières négociations, les premiers contacts ont eu lieu avec la Colombie, alors même que la Colombie n'est pas le pays qui, du point de vue économique, est le plus important pour la Suisse. Le pays qui est le plus important en raison des investissements suisses et des échanges commerciaux, c'est le Brésil. Et la Suisse, en fait, n'a pas négocié avec le Brésil parce que le Brésil n'a pas voulu négocier avec la Suisse, ou n'avait pas d'intérêt à négocier avec la Suisse. Mais naturellement, il y avait un intérêt politique de la Colombie de négocier avec la Suisse, parce que à l'époque, il n'y avait aucun accord de libre-échange entre la Colombie et un autre pays du Nord, puisque d'une part, aux États-Unis, l'accord de libre-échange était bloqué par une décision du Sénat, et l'opposition à l'époque au Sénat américain était lidérée, comme on dit, par deux personnes assez connues. L'un était Barack Obama et l'autre était Hillary Clinton. Quand ils étaient ensuite aux affaires, c'est eux qui ont permis en fait la réalisation et la conclusion et la ratification de l'accord. Et il y avait également une opposition de la part au sein du Canada. Et donc, on a assisté à une accélération du processus avec la Suisse. Peut-être rappeler que, et donc cette accélération n'était pas seulement, n'était pas du tout une nécessité économique, mais était réellement aussi une volonté politique. Volonté politique parce que ça a été affirmé par les conseillers fédéraux en charge du dossier, notamment Madame Leuthard à l'époque, chef du département fédéral de l'économie, qui précisait que la Suisse, pays libéral, avait tout à fait avantage à conclure un accord de libre-échange avec la Colombie, seul pays réellement libéral en Amérique du Sud au moment des discussions. Donc voilà le contexte dans lequel cela se passe. Il faut savoir encore que les accords de libre-échange qui sont négociés par la Suisse ne sont pas négociés directement par la Suisse. En fait, c'est négocié par l'ALE. Et c'est un système extrêmement pervers parce que la Suisse, ou si vous voulez, le Parlement, voire le Conseil fédéral, délègue à une entité bureaucratique, de technocrate, le pouvoir de négociation de ces accords. Ensuite, l'accord est achevé de négociation par cette délégation, et ensuite, on soumet l'accord pour signature au Conseil fédéral, et ensuite ratification au Parlement. Mais pratiquement, comme l'accord a été négocié, c'est un accord qui ensuite devrait être signé de manière bilatérale par les autres pays par tous les pays de l'ALE, à savoir d'un côté l'Islande, qui aurait un accord Colombie-Islande, ensuite Norvège-Colombie, Liechtenstein-Colombie et Suisse-Colombie. Dans le cadre du débat interne que nous avons eu à Berne, c'était un débat qui a eu lieu en 2009. Nous avons comme minorité refusé de signer, disons, de ratifier l'accord de libre-échange avec comme condition, disons, comme message, c'est que avant tout accord de libre-échange, il fallait que la Colombie puisse d'une part changer sa politique judiciaire et de protection de la population, des civils, à savoir ne plus être dans l'impunité dans laquelle se trouvent aujourd'hui les criminels en Colombie, c'est-à-dire les paramilitaires, les militaires et autres. Donc de changer, c'était un des éléments d'ailleurs qui était au centre du blocage du processus de signature et de ratification de l'accord entre les États-Unis et la Colombie au départ. Et naturellement, nous avons également demandé qu'il y ait une politique de respect des droits des travailleurs par rapport aux conventions ratifiées par la Colombie auprès du BIT, et puis qu'il y ait aussi respect des règles en matière environnementale. Alors, l'argument qui est avancé aussi, c'est de dire qui viole les règles sur les droits du travail, qui viole les règles sur la protection de l'environnement, en fait, crée des conditions de concurrence déloyale, puisqu'il a un coût plus réduit de production et il vient sur le marché de cette manière-là. Et puis, naturellement aussi, c'était une question de cohérence. Comment la Suisse peut signer un accord de libre-échange alors que l'on sait que le pays est sur place dans une situation dramatique, dans la violation des droits de l'homme, droits sociaux et des droits environnementaux, alors même que la Suisse investit des millions dans des programmes du service à l'époque, c'était la division politique 4, c'est-à-dire la division de protection humaine, voire de la coopération au développement, qui sont des programmes qui vont en aide aux populations qui sont justement exclues du système économique dominant et qui sont destinées aussi à protéger des particuliers, des militantes ou des militants qui, par leur engagement contre le système, disons, sécuritaire de l'État, ont leur vie qui est en danger. Donc il y avait là une situation de contradiction, puisque l'accord de libre-échange, en fait, allait renforcer cette politique nationale. Et ce qui est important, c'est que de se souligner, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais c'est vraiment exprimé comme ça par Madame Leuthard et par on va dire, la majorité politique bourgeoise en Suisse, c'est cet axiome qui est en même temps un mythe fondateur capitaliste, c'est celui de dire que le commerce accroît la richesse, que l'accroissement de la richesse bénéficie à tout le monde, que l'accroissement de la richesse qui bénéficie à tout le monde, naturellement, renforce la démocratie, et qu'en renforçant la démocratie, ben, on lutte contre l'impunité, on lutte contre l'exclusion et autres, et donc les violations des droits de l'homme. Ça, c'est l'axiome de base qui est tout le temps utilisé pour dire, mais vous qui êtes opposés aux accords de libre-échange, vous êtes dans l'erreur. Ça se passe en Colombie, ça se passe aux États-Unis, ça se passe à Bruxelles, mais ça se passe de toute façon de manière très très claire aussi en Suisse. Bon. Il faut relever que quand nous avons eu le débat politique en Suisse en 2009, l'accord a été signé en 2008, ensuite ratifié en 2009, il y a eu une opposition de 70 personnes qui ont donc soutenu le rejet, en fait, de cet accord, la non-ratification, et 108 parlementaires ont accepté cet accord. Donc 70 à 108. Il faut donc dire qu'il y en avait 30 qui n'étaient pas dans la salle, ou 20 qui n'étaient pas dans la salle. Mais je prends ces chiffres parce que c'est relativement intéressant. Si on remonte en arrière en 2006, le Parlement a ratifié un autre accord qui est un accord aussi fondamental dans la pénétration du dispositif multinational dans les pays du Sud, c'est les accords de protection des investissements. Et la Suisse, en 2006, a ratifié un accord de protection des investissements qui lie la Suisse à la Colombie. Et à l'époque, nous étions 9 parlementaires qui nous étions opposés à cet accord pour les mêmes motifs. C'est-à-dire que mon parti, pour le Parti socialiste, je veux dire, il y avait peut-être 4-5 personnes qui, à l'époque, s'étaient déclarées opposées à cet accord sur la protection des investissements. Accord qui est extrêmement pernicieux. On pourra faire un jour un séminaire sur ces accords-là, qui sont un peu différents, mais qui donnent un pouvoir énorme aux multinationales pour mettre en situation de difficulté les États quand ils changent la législation afin de garantir de plus grandes parts du bénéfice pour le pays, soit lorsqu'il y a des normes sociales ou environnementales qui changent de standing et qui naturellement génèrent des coûts pour les multinationales. Lorsque, ça je pense c'est intéressant de voir cette évolution au sein du Parlement, et aujourd'hui au Parlement nous avons systématiquement commission de politique étrangère, une consultation qui est faite pour les nouveaux accords de libre-échange. Alors, il n'y a naturellement pas une majorité qui s'oppose aux accords de libre-échange. La Suisse est présentée comme l'élève modèle de la mondialisation, de la globalisation on le sait très bien, siège privilégié pour les multinationales ou les holdings et les sièges de multinationales. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis le début de cette législature, nous arrivons, en tout cas dans la phase de recommandation au moment des négociations, à avoir une majorité qui demande à ce que les questions des droits humains, des questions sociales et environnementales soient mises dans le paquet de négociations, avec l'objectif, c'est celui d'essayer d'insérer dans l'accord des clauses sociales, alors environnementales et de droits humains. On peut naturellement de l'autre côté de la table faire une critique, qui est peut-être une critique qui peut être fondée, mais pour nous qui sommes au Parlement, cette évolution-là serait un pas énorme par rapport à une situation qui est un désert, où il ne se passe rien. Je rappelle qu'en Suisse, on n'a même pas le système de l'étude d'impact préalable qui existe dans l'Union européenne, qui a été évoqué. Après, l'usage qu'on en fait, ça c'est encore autre chose, mais l'instrument lui-même n'existe pas. Donc finalement, nous, on demande, ayons une étude d'impact préalable, ayons ces clauses sociales, négocier pour qu'il y ait des clauses sociales, environnementales et des droits de l'homme, et c'est un minimum. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore eu un seul cas où un accord de libre-échange a intégré dans le dispositif de l'accord, cela, dans le préambule, bien sûr, on fait référence à la valeur de la démocratie, à la valeur des droits de l'homme, donc c'est des effets déclamatoires. Et la majorité politique n'a toujours pas compris que cet automatisme entre libre-échange et démocratie n'existe pas, ce qu'ils nous vendent. Je dirais tout simplement, l'exemple pour la Suisse, le plus frappant, c'est celui de l'accord de libre-échange conclu avec la Tunisie. Nous avons eu un accord avec la Tunisie, nous avons vu ce qui s'est développé en Tunisie, et que finalement le changement n'est pas intervenu par l'échange commercial, mais par la volonté politique finalement du peuple. Pour revenir au voyage en Colombie, nous avons eu l'occasion de rencontrer les multinationales suisses présentes. Il y avait Holcim, Clariant, Nestlé, Glencore et d'autres, qui naturellement toutes nous ont dit le bien que l'accord de libre-échange le faisait. Et, naturellement, ça réduit jusqu'à 8% les coûts d'importation suisse dans l'appareil de production local, ou naturellement, ça réduit les coûts d'exportation colombienne vers la Suisse, quand on prend Clariant, qui est dans le para, je crois que c'est dans le para pharmaceutique, et qui utilise les produits de la biodiversité colombienne. Donc on voit bien que pour eux, naturellement, c'était une déclaration en cœur d'intérêt. Nous avons rencontré des syndicats qui ont été très clairs, Tu étais très clair en disant que l'accord de libre-échange avec la Suisse, mais avec tous les autres pays de la, avec lesquels la Colombie a conclu un accord, pose un problème énorme de destruction à terme des emplois pour l'économie locale, c'est-à-dire les PME colombiennes. Et là, il y avait naturellement un très grand souci. Mais j'aimerais faire le lien ensuite avec ce qui a été dit tout à l'heure. On vous a parlé des deux locomotoras colombiennes, donc on nous a expliqué ce que c'était, c'est avoir le développement de l'industrie extractive et le développement de l'agro-industrie. Ces deux secteurs dans lesquels la Suisse est relativement présente, puisque vous avez Syngenta, vous avez Nestlé pour l'agroalimentaire, puis j'en oublie d'autres que j'ai vus sur place, mais vous avez Glencore pour tout ce qui est de l'extractif. Donc, ces choix qui sont faits en Colombie, au niveau de stratégie du modèle économique, ce sont des choix qui ne peuvent s'appuyer que sur une économie globalisée, avec au nord des pays qui achètent, avec des multinationales à la clé. Donc il faut favoriser le modèle des multinationales. Mais lorsqu'on choisit ce développement économique-là, on choisit implicitement un développement où il faut naturellement un apport énorme de capital. Donc ça ne peut être que des multinationales qui finalement viennent avec ce capital, ça ne peut pas être du capital national et ça ne peut naturellement pas être les couches défavorisées de la population qui peuvent y arriver. Et ça, que ce soit dans le cadre de minier ou dans le cadre agroalimentaire. C'est-à-dire que les investissements que fait par exemple Nestlé, c'est-à-dire il y a très peu de groupes qui peuvent faire ce genre d'investissement, de groupes colombiens qui peuvent faire ce genre d'investissement. Mais j'en profite lorsque je parle de Nestlé de relever un élément important qui a été souligné par la personne de Nestlé qui disait mais nous on doit réduire les coûts chez nous parce que on est en concurrence, donc les coûts en Colombie, parce qu'on est en concurrence avec les importations de lait américain. C'est-à-dire que Nestlé nous expliquait que le lait qu'il produit c'était de, je crois, 1 $ et le lait américain qu'on importe en Colombie était de 35 ou 65, je ne sais plus maintenant, centimes de dollars. En d'autres termes, Nestlé nous disait elle-même que les accords de libre-échange, à terme, finalement, allaient simplement détruire même le travail de sa propre multinationale si elle n'arrivait pas à baisser les coûts, et c'était donc l'apport du Nord. Maintenant, un élément qui nous a été, qui est ressorti de manière très claire, parce que dans notre voyage, nous sommes allés à Popayán pour rencontrer les partenaires du programme suisse pour la paix en Colombie, SWIPCOL. Et là, nous avons eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer un délégué du CRIC et d'autres personnes, mais nous avons aussi rencontré des maires et le gouverneur. Et nous avons évoqué la question de ces concessions qui intéressent tellement Xstrata, Glencore et toutes les autres sociétés extractives qui sont ici en Suisse. Et il s'avère que, en fait, les concessions sont délivrées par la présidence. C'est-à-dire que c'est la présidence qui octroie, ou je sais pas quel service présidentiel, qui octroie les concessions aux entreprises. Alors, on peut bien vous expliquer qu'il y avait effectivement ces processus dits participatifs et de consultation pour savoir ce que pensent les populations locales, que ce soit les populations indigènes, les paysans, les ONG, voire les communes ou même les gouverneurs. Le seul problème, c'est que ensuite, la présidence décide librement quelle est la décision, et on nous dit très clairement, même le gouverneur du Cauca que nous avons eu l'occasion de rencontrer, nous a dit, mais on ne tient pas compte de ce que nous disons. Lorsque nous disons, mais là où vous prévoyez de développer la mine, c'est des terrains qui sont ancestraux d'une communauté traditionnelle, indigène, si vous faites là la mine, vous allez détruire en plus la possibilité de production agricole pour un certain nombre de personnes, vous devez déplacer des villages entiers, donc il faut renoncer à ce type de développement. La présidence n'en tient pas compte et donne ces concessions, ces concessions qui ont été données de manière industrielle ces dernières années, même si elles ne sont pas toutes aujourd'hui actives. Donc c'est des surfaces gigantesques qui sont aujourd'hui déjà concessionnées. Et on voit que le dispositif légal ne permet pas de contester la décision du service présidentiel. Il n'y a pas de possibilité d'aller devant un tribunal et dire c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la loi qui garantit les droits des communautés traditionnelles. Donc, La Suisse, naturellement, en ayant cet accord de libre-échange, en ne posant aucune condition préalable à la signature de l'accord de libre-échange et en n'ayant pas de clauses qui peuvent être saisies, par exemple, par les syndicats colombiens, par les communautés traditionnelles colombiennes, par les organisations de défense des droits de l'homme, en fait, favorise complètement ce type de développement et, naturellement, dans l'intérêt de la classe dominante colombienne, mais dans l'intérêt des multinationales. Après, je reviendrai sur l'aspect peut-être des retombées en Suisse, mais en même temps, c'est-à-dire qu'en en favorisant cela, il favorise un modèle qui porte en lui le conflit. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que ça, c'est l'élément qui me paraît aujourd'hui, ce que moi, je retiens de mon retour. De mon retour de Colombie, c'est-à-dire que nous participons à un modèle qui est un modèle effectivement de violence sociale. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire? Aujourd'hui, comme minoritaire au Parlement, c'est toujours mettre la pression sur le Conseil fédéral et essayer de modifier la majorité politique. Nous espérions que, par exemple, le voyage en Colombie allait modifier la perception de certains élus fédéraux, puisque nous étions 8, sur la question de la violence contre les syndicats, de la violence contre les défenseurs des droits de l'homme, et que nous allions pouvoir avoir une acceptation de la fameuse pétition de Alliance Sud qui a été signée par 135 000 citoyennes et citoyens de notre pays, qui demandaient à ce qu'il y ait un nouveau droit suisse qui permette en fait on va dire à ceux qui subissent les conséquences des attitudes des filiales de multinationales suisses de pouvoir faire valoir leurs droits ici en Suisse, fameuse pétition Droits sans frontières. Eh ben non. Ceux qui ont participé au voyage, pour la plupart, n'ont pas voté à droite, bien entendu, hein, je veux dire, à gauche, là, ils sont naturellement soutenus, mais à droite, à part une personne du PDC, les autres n'ont pas soutenu cette pétition. Je dirais, comme ça, peut-être au départ, on dit que les voyages forment la jeunesse. Je pensais que les voyages formaient également les parlementaires, mais je dois avouer que lorsqu'on est peut-être obtus, on le reste malgré un voyage qui nous a permis d'être confrontés directement avec la réalité.